Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur les ondes de campus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme ce soir, on accueille l'équipe du festival Les Orientales. Le festival Les Orientales en Anjou, ça se passe du 30 juin au 5 juillet à Ingrandes, Saint-Florent-le-Vieil et évidemment à Angers. On en parle avec les membres du festival. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles. Mais avant tout, on écoute une chronique sur le business autour de l'eau en bouteille avec Océane. En ces chaudes journées du mois de juin, quoi de mieux que de se rafraîchir avec un grand verre d'eau ? Enfin, tout dépend du prix de cette eau, car de plus en plus de marques de luxe s'approprient ce business. Salut Océane.
Salut Hugo.
Tu vas nous parler dans ta chronique de ce marché de l'eau récupéré par les marques de luxe, où le prix dépend plus du contenant que du contenu.
En effet, depuis plusieurs années, un véritable business s'est développé autour de l'eau. Qu'elle soit minérale, pétillante ou aromatisée, les marques s'en donnent à cœur joie à proposer des bouteilles toujours plus extravagantes. Alors qu'à Super U, vous pouvez acheter un pack de 6 bouteilles d'1,5 litre pour 3 euros, ce n'est rien comparé aux bouteilles de Bling H2O, Sail ou encore Filico. Ces marques vendent leurs bouteilles jusqu'à 30, 70, 100 euros, voire plus, pour 75 centilitres d'eau.
Et comment ça se fait que ces bouteilles, elles sont si chères ?
On peut identifier trois facteurs. Tout d'abord, la provenance de l'eau. Plus celle-ci provient d'une source rare et exotique, plus elle a de la valeur. Certaines marques puiseraient l'eau des icebergs, comme Svalbardi. L'eau Konanigari proviendrait, elle, d'une source située à 2000 mètres sous la mer, au large d'Hawaï. L'eau roi Roitschoskrin proviendrait quant à elle du lieu où, d'après la mythologie, le cheval ailé Pégase aurait heurté le sol avec son sabot et aurait créé une nouvelle source.
Et les eaux se distinguent aussi par leur goût.
Oui, elles peuvent être légères, lourdes, salées, iodées, minéralisées. Elles n'ont pas été traitées, filtrées ou gazéifiées artificiellement. D'après les vendeurs, elles peuvent aussi avoir des bienfaits sur la santé, comme être plus hydratante que l'eau des robinets, faire perdre du poids, réduire le stress ou même améliorer le tonus de la peau.
Dites-moi plus.
Enfin, le prix varie aussi en fonction, voire surtout, du packaging.
Évidemment.
Son origine devient un slogan, naturellement gazeux, provenance exotique. Tout ça dans l'objectif, toujours, de mettre en avant la pureté de l'eau proposée.
Et la stratégie marketing s'appuie aussi, évidemment, essentiellement sur, et je vous le donne en mille, le design des bouteilles.
Et oui, les marques font fréquemment appel aux maisons de luxe, telles que Ralph Lauren ou encore Calvin Klein. Les codes du luxe sont ainsi retranscrits dans la présentation des bouteilles. Par exemple, la marque Filico Girolli Water décore ses bouteilles grâce aux cristaux de Swarovski.
Aux cristaux de Swarovski.
Et oui, la bouteille de 70 centilitres se vend à 227,49 €. Autant dire qu'on ne va pas jeter la bouteille. Hein.
C'est un tiers de mon loyer. Est-ce que c'est un marché qui rencontre du succès ? Évidemment, comme tous les trucs de merde, c'est sûr.
Ce marché gagne de plus en plus d'adeptes. Les restaurants mettent progressivement ces bouteilles sur leur table. C'est la rareté du produit qui attise la curiosité de l'acheteur, bien plus que la qualité de l'eau en elle-même. Malgré tout, ces eaux premium se rapprochent plus d'une œuvre d'art que d'un simple besoin. Par exemple, l'Aqua di Cristallo proviendrait des sources naturelles des Fidji, de France et des glaciers d'Islande. Puis, elle serait saupoudrée par 5 mg d'or 23 carats. Elle est ensuite vendue dans des bouteilles de 24 carats d'or massif. Pour les intéressés, vous pouvez en dénicher une allant jusqu'à 50 000 euros.
50 000 balles pour boire de l'eau dorée.
Oui, c'est ça, pourquoi pas.
Hein.
À travers ces bouteilles, au prix exorbitant, on conclut que l'eau est effectivement un vrai luxe.
Oui, ça c'est vrai.
Encore plus dans un monde où, on le rappelle, 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable.
Merci beaucoup Océane pour ta chronique. Et puis ben, moi, je vais aller acheter une bouteille à 275 balles pour raffermir ma peau et lui donner bon teint. Hein,
puisque... Oui, tu m'en passeras un peu.
Avec plaisir. Merci beaucoup Océane. Et on se laisse en musique avec des polyphonies mongoles qu'on va pouvoir retrouver au festival Les Orientales en Anjou. Sur les ondes de Radio Campus Angers avec leur morceau Témé. C'est un sextet qui vient de Mongolie, qui à la base était programmé, je crois, au Festival des Orientales. Alors j'ai l'impression que le nom a un peu changé. Avec nous dans les studios pour parler de la programmation du Festival des Orientales, Ramzia Bouredouane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné d'Alain Weber, le directeur artistique du festival. Vous, Ramzi, vous êtes le président de l'association Alcamanzati qui porte donc ce festival. Le festival Les Orientales en Anjou, ça se passe le 30 juin à Ingrandes, donc demain, les 2 et 3 juillet à Saint-Florent-le-Vieil et les 5 et 6 juillet à Angers. Ramzi, est-ce que vous pourriez nous re-raconter les origines de ce festival et à quoi est-ce que ça répondait à la base, la création d'Alcamanjati et du festival Les Orientales?
En fait, c'est vrai qu'Alcamanjati, depuis 5 ans, a commencé à réfléchir à en amener un festival, ou à créer un festival, surtout de musique en fait, traditionnelle de différents... horizon de l'Orient, d'Afrique. Et donc on avait réfléchi longuement à ça et puis j'en ai parlé beaucoup avec Alain et c'est là où l'idée était venue, pourquoi pas ne reprendre revivre les Orientales à nouveau, donc puisque notre idée de festival qu'Alcamanjati avait de créer, c'était pour pouvoir enrichir la scène locale qui est assez quand même pauvre en musique d'autres traditions et d'autres cultures en fait. On est souvent ici, on a beaucoup de musique classique, l'opéra, on a musique actuelle, mais la musique vraiment traditionnelle et la découverte de l'autre était très très peu présentée ici dans les pays de la Loire. Donc c'est là où avec Alain Weber on a discuté, puis l'idée de reprendre les Orientales, bien sûr en accord avec Alain et toutes les responsables, les anciens responsables des Orientales à Saint-Florent-le-Vieil, était une idée de bienvenue et puis ça s'est lancé comme ça. Peut-être je peux laisser Alain parler de...
Tout à fait. Alain, comment est-ce que vous êtes approprié ce festival? Quelle est la patte que vous avez voulu mettre artistique?
Ben disons, en gros, effectivement, oui, c'est un festival. Toutes mes préoccupations personnelles, ça a toujours été de mettre en valeur donc, les musiques. Alors, on dit musique du monde, on pourrait dire aussi musique d'héritage, que j'essaye un peu de faire découvrir par différentes organisations et différents projets depuis beaucoup d'années. Et c'est vrai que la première rencontre qui avait eu lieu donc, sur le terrain de Saint-Florent-le-Vieil avec, à l'époque, son maire, Hervé de Charette, avait déjà montré à quel point il y avait un intérêt. Moi, je pars du principe que les gens, en fait, connaissent mal toutes ces musiques d'Orient, mais ne demandent qu'à les découvrir. Et se réapproprier, justement, un répertoire comme celui d'Orient, d'Asie et autres, à travers des musiques d'héritage, de transmission, donc historique, ça, souvent, réveille chez les spectateurs et dans différentes régions, que ce soit ici, en région de la Loire ou d'autres, ça réveille une sorte un peu d'élan intérieur et d'intérêt sur ses propres racines. Et j'adore cette rencontre entre une terre de racines avec ces musiques venues d'ailleurs qui créent une sorte un peu de stimulation à la fois artistique, musicale et autre. Et c'est vrai que, puisque Ramzy lui aussi, dans son domaine à lui, beaucoup de travail pour la préservation de notamment, en l'occurrence, des musiques arabes et d'autres, c'est vrai que ce premier volet des orientales, cette proposition permettait effectivement de faire revivre d'une part les orientales et de recréer surtout cette synergie entre les gens de le Pays de la Loire et un festival.
Vous parlez de musique d'héritage.
Oui, parce que, c'est-à-dire, vous savez, le terme musique du monde qui est né dans les années, au début des années 90, world music et compagnie, on ne sait plus trop comment l'utiliser ce terme-là, parce que musique du monde, toutes les musiques sont du monde quelque part. Et puis ça ferait un peu rire souvent maintenant quand on dit musique du monde. Donc moi, je préfère le terme héritage parce que ce sont quand même des musiques, d'ailleurs la plupart de tradition orale, qui ont traversé les siècles. Certains chants sacrés remontent jusqu'au 5e, 6e siècle. Et je trouve ça absolument admirable, cette espèce de mémoire, de transmission. D'autant plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout est fait pour effacer la mémoire. On est dans un monde de l'immédiat, de la consommation, où la globalisation en fait est souvent une sorte d'attrape-nigaud pour oublier justement l'héritage de tous ces peuples. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot héritage.
Et d'autant plus qu'il y a une vraie volonté de faire se répondre l'héritage de ces musiques qui viennent d'ici et d'ailleurs, mais aussi le patrimoine local, puisque ça se passe.
C'est ça, et ça c'est là-dessus où justement des associations comme El Kamanjati ont un rôle très important, parce qu'ils ne viennent pas simplement apporter une musique, ils créent une relation avec tout un tissu social et culturel existant, et je le répète, ça permet de revaloriser aussi des musiques locales qui sont très importantes, parce que les grandes musiques de tradition, qu'elles soient orientales ou occidentales, souvent fonctionnent avec les mêmes moteurs. C'est la tradition, c'est le sacré, c'est la vie quotidienne d'autrefois qu'on essaye de faire revivre dans des chants. Et en fait, si vous allez dans un village au fond de l'Égypte ou n'importe où, ici, vous allez trouver en fait énormément de similitudes dans les paroles, dans les poésies et autres. Il y a quelque chose d'universel dans ces musiques.
Ça fait se répondre le territoire avec ces musiques qui viennent donc d'ici et d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez fait pour faire se rencontrer ces lieux patrimoniaux, hein? Vous allez proposer des choses voilà, en face de la tapisserie de l'Apocalypse, au musée Jean Lursa. Vous allez dans des lieux comme Saint-Florent-le-Vieil chargés d'histoire. Comment est-ce que vous faites pour programmer des artistes et que ça se réponde vraiment avec les lieux dans lesquels ils vont jouer?
Ben effectivement, vous parlez des lieux, c'est intéressant parce que le grand rêve, je pense que c'est le rêve de toute personne qui fait de la programmation musicale, c'est de pouvoir travailler dans des lieux historiques. Moi, je travaille dans d'autres lieux, notamment aussi à l'année, comme la Philharmonie à Paris. Mais quand on a la chance de pouvoir travailler dans des lieux historiques, ça donne tout de suite cette autre dimension. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez un film muet, et tout d'un coup, on vous met les paroles avec, quoi. Et là, c'est un peu ça. Tout d'un coup, ces musiques reprennent notre vie, les pierres reprennent notre vie, et ça fait un lien absolument incroyable, parce que de toute manière, l'environnement musical, c'est quelque chose qui est très important. Et la plupart des musiques qu'on entend aujourd'hui ne sont plus jouées dans leur cadre naturel. Et c'est un peu une manière un peu de se réapproprier l'histoire. Et en plus, bon là, vous parliez d'Angers, justement, avec je pensais à cette vision apocalyptique donc, oui. De cette tapisserie. C'est vrai que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. On est maintenant dans une vision aussi qui est un peu terrifiante de l'avenir. Et en plus, on a accès, pour finir, sur beaucoup cette édition sur le thème de la prophétie. C'est-à-dire que le musicien, poète, est à la fois un devin, il est à la fois prophète. D'ailleurs, les religions monothéistes sont liées toujours à la parole sacrée, au verbe sacré. Et donc, quelque part, il a cette vision, c'est pas simplement la musique, la belle poésie, il a... C'est un visionnaire aussi. C'est un peu ce qu'on va essayer de démontrer dans cette programmation.
Y a aussi... on parle beaucoup de musique sacrée. Hein, on vient d'écouter des chants polyphoniques mongols. Ces musiques du monde, hein, ces musiques d'héritage dont vous parliez, revêtent un caractère sacré, quand même, de manière générale, puisque font revenir et rejaillir de la mémoire et l'histoire de nombreux peuples. Vous allez aussi les faire jouer dans des lieux qui portent aussi cet héritage, comme des églises. Est-ce que se faire rencontrer les sacrés comme ça, c'était aussi l'objectif ?
C'est tout à fait l'objectif. Et c'est vrai qu'on a la chance, d'abord, on aura trois lieux sacrés vraiment, l'abbatiale et deux églises en grande sur Loire dès demain. Et c'est vrai que c'est un peu aussi une chance qu'on a très souvent, parce que c'est vrai que dans le, en tous les cas, dans la région chrétienne, si vous voulez, on a accès aux lieux saints très facilement pour faire de la musique. On a cette possibilité, effectivement, de pouvoir, dans un lieu sacré, avoir des concerts de musique très différente, pas forcément sacrée, hein, aussi profane, mais le fait de pouvoir habiter ce genre d'espace donne une autre dimension à la musique. En plus, il y a très souvent aussi l'avantage de l'acoustique. On a une acoustique extraordinaire dans beaucoup d'églises. Et c'est aussi une manière de montrer à quel point, sans tomber dans une espèce de blabla habituel, si vous voulez, de montrer aussi le côté universel des religions aussi, qu'on essaye un peu de démontrer dans cette démarche, notamment dans les religions monothéistes aussi.
Comment est-ce que vous avez choisi les lieux ? Est-ce que c'est en fonction de l'acoustique ou de ce qu'ils portent ?
Alors, c'est le travail beaucoup de Kamenjati, qui est allé en dehors. Saint-Florent-le-Vieil était déjà implanté avant, donc c'était une affaire déjà réglée, on va dire. Mais ça a été le travail de Kamenjati d'aller repérer autour, dans cette région d'Anjou, certains lieux et certaines mairies aussi qui sont intéressées par ce type de démarche.
Ramzi ?
C'est vrai qu'en fait, la nouveauté, en fait, c'est pas la nouveauté, mais il y a quand même... la nouvelle chose avec le festival Les Orientales est cette idée d'itinérance qu'on voudrait développer.
Depuis l'année dernière, c'est
depuis l'année dernière, voilà, c'est pouvoir aussi voyager avec le festival dans différentes communes. Et donc, dès la première année, on avait fait Douai-la-Fontaine, Angers-Saint-Florent. Et cette année, on a eu de l'intérêt. Et puis, en fait, il y a aussi des communes qui nous contactent parce que ça leur intéresse d'accueillir le festival comme un grand. Donc, cette année, on était très contents de changer de commune et d'aller à un grand. Et pour nous, c'est une possibilité de pouvoir vraiment avoir accès à un maximum des riverains, d'habitants dans le pays de la Loire, parce que tout le monde n'a pas forcément l'accès au festival lorsque ça se passe dans un seul endroit. Mais on est sûr de pouvoir toucher des gens et agrandir le public des Orientales et puis donner cet accès au plus grand nombre de personnes travers cette idée d'itinérance. Mais le travail qu'on fait, c'est de rencontrer, faire de repérage, d'aller voir les différents lieux, et puis à la fin, une fois qu'il y a le choix qui est tombé, on appelle Alain qui vient aussi, puis qui confirme, et puis on est tous dans un partenariat de collaboration, donc de recherche ensemble avec les communes, pour choisir les meilleurs lieux qui leur représentent, et puis qui soient aussi cohérentes avec ce qui va être présenté dedans.
Vous avez aussi vous parliez d'accueillir un maximum de personnes. Vous avez aussi une politique tarifaire qui est vraiment hyper intéressante. Hein. On peut juste en glisser deux, trois mots, parce que c'est pas forcément, il y a plein d'autres choses dont on a envie de parler, mais ça va de 6 à 15 euros, c'est ça?
C'est ça. C'est parce que c'est vrai qu'Al Kamenjati, dans sa création, son idée d'origine, c'est de rendre la musique accessible. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a opté et puis aller dans une direction de ne pas avoir des grands prix, en fait, ou des prix importants pour pouvoir ouvrir l'accès à notre catégorie aussi de population qui ne pouvait pas payer quand même des billets assez chers. Donc aussi, il y a un travail aussi de terrain à travers cette stratégie.
D'autant plus qu'effectivement, de nombreux spectacles que vous proposez à l'année, eux, là, c'est au Grand Théâtre, voilà, c'est une politique tarifaire complètement différente.
Complètement, bien sûr. Ouais. Voilà, là, c'est vraiment pour pouvoir ouvrir les portes à tout le monde et que le prix ne soit pas un obstacle si quelqu'un souhaite ou aimerait venir voir un spectacle.
La programmation, on va quand même en parler un petit peu maintenant qu'on a débriefé sur ce qu'était, ce que portait le festival. La programmation, évidemment, riche, variée, diversifiée, éclectique, avec des artistes qui viennent du bout du monde. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qu'on vient d'entendre et ce sextet de polyphonie diphonique qui vient tout droit d'Oulan-Bator en Mongolie. Alain Weber, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ces artistes incroyables ? Est-ce que c'est toujours d'ailleurs ce sextet qui vient ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux informations différentes entre ce que j'ai sur la programmation en ligne et ce qu'il y a sur le fascicule que vous m'avez donné.
Effectivement, c'est le même genre de musique qui va venir, avec toujours un travail qui a été fait par le musicologue Giovanni Cortet, qui est d'ailleurs originaire de Rennes, d'ailleurs. Et on a simplement changé légèrement la programmation au niveau des interprètes, du fait que le groupe initial en tournée a été obligé d'annuler cette dernière. Il y a eu des histoires classiques qui existent souvent entre pays européens, des tournées, etc. Bon, ceci dit, on est tout à fait dans le même genre musical qui va être présenté.
Voilà, des polyphonies mongoles.
Polyphonie mongole, voilà, on pourrait dire aussi chant diphonique, beaucoup. C'est-à-dire que dans ce festival, on a des musiques d'origine qui peuvent être de différentes religions, qui peuvent être aussi de différents environnements. Donc, on va retrouver toujours la fonction nomade, en l'occurrence particulièrement avec ce groupe, puisque là, on est vraiment au cœur du monde pastoral, hein, puisque des steppes. Et c'est vrai que ce chant roumi, donc dit chant diphonique, dit chant de gorge, etc., qui est une des grandes particularités, qu'on ne trouve pas d'ailleurs forcément qu'en Mongolie, qu'on va trouver dans plusieurs zones d'Asie centrale, est vraiment une des grandes rencontres entre la voix humaine et l'environnement, des montagnes, des rivières. C'est vraiment une rencontre entre l'homme et la nature qui est extraordinaire. Et donc, on peut le considérer sacré, parce que c'est toujours une démarche qui est en rapport complètement avec la nature, les ancêtres, etc. Et pour nous, c'est un peu, en quelque sorte, revenir à l'origine même de toutes ces musiques d'Orient qui sont beaucoup nés dans des sociétés pastorales, nomades et autres, notamment bien sûr dans la tradition arabe d'origine bédouine à l'époque. Et c'est à partir de ce parcours qu'on va effectivement aller vers beaucoup d'autres musiques. En fait, on arrive à couvrir quand même énormément de pays différents. Je ne sais pas, il y en a moins une vingtaine. Oui, parce qu'on remonte jusqu'au Maghreb, on remonte même aux musiques européennes aussi de plus en plus.
On va en parler.
On essaie d'intégrer, n'est-ce pas ?
Il y a de la cornemuse qui n'est pas tout à fait orientale, mais on va en reparler juste après.
Ah, mais les origines celtiques et compagnie, on va vous dire, c'est oriental. Mais effectivement, c'est un grand parcours parce que très vite, brièvement, pour dire que toutes les notions maintenant sont bousculées. Elles sont bousculées depuis une trentaine d'années, de toute manière. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, la mondialisation, l'exil, les réfugiés climatiques, etc., font qu'en espèce de grand chamboulement des traditions.
Alors ça se passe Pardon, j'en perds mes mots. Le 1er juillet à l'Abbatiale. Donc ce sera aussi, donc vous avez entendu, hein, auditeur, auditrice de Radio Campus Angers, c'est un peu particulier comme proposition musicale. Là en plus, ce sera avec une acoustique particulière, dans une abbaye, ça va vraiment beaucoup résonner. C'était un choix de votre part ?
C'est un grand site, vous savez, l'abbatiale de Saint-Flamblay est un grand site de la région historique et sacré, mais effectivement, chaque fois qu'on a donc accès à ce type de lieu, je le répète, c'est un des grands avantages aussi de cette région, d'avoir beaucoup de très belles églises, il est évident qu'au niveau acoustique, c'est beaucoup plus quelque chose qui va être porteur et intéressant pour nous, dans ce genre d'atmosphère, c'est une grande richesse de la France aussi, d'avoir tous ces lieux, toutes ces églises dans lesquelles où on peut faire des concerts. Et c'est surtout le fait qu'on peut amener dans des lieux comme ceux-là des musiques qui viennent complètement d'autres origines. C'est ça qui est intéressant. C'est le croisement des deux qui est intéressant.
Vous deux particulièrement, peut-être qu'on peut commencer par vous, Ramzi. Vous allez proposer avec l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou, ce que vous appelez un florilège andalou. Donc ça, c'est le 30 juin, donc c'est demain à Grande-sur-Loire. Qu'est-ce que vous allez proposer exactement ?
Là, on va proposer un concert avec la musique arabo-andalou. En fait, plutôt spécialité de côté Alger, puisque nous avons invité une grande chanteuse de cette spécialité qui est Bahja Rahal, avec qui on avait travaillé dans le passé sur le style de Sanaa. Ce projet était vraiment pour pouvoir développer les capacités et le savoir de tous les membres de l'orchestre arabo-andalou et puis un peu approfondir les styles. Et donc on va présenter un mini, ce qu'on appelle mini noba. En fait, c'est avec de voyages d'un taba à l'autre. Taba, c'est une gamme. Donc on fait des suites en fait qui sont dans une structure des gammes qui commence et qui se termine selon la structure musicale en fait dans ce style algérois de l'arabo-andalou. Donc ça va être surtout un moment poétique impressionnant parce que on est là vraiment dans la nature, on est dans l'amour, on est dans la poésie en fait andalou ancienne. Et tout ça va se passer dans la grande église de Ingrande. Donc,
L'église Notre-Dame d'Ingrande.
D'Ingrande, voilà.
Alain Weber, vous, ça se passe le mercredi 5 juillet au musée Jean Lursa avec une œuvre que vous avez appelée Le Chant du Monde, avec l'ensemble Regard Persan, avec Yaa Youssefi. Qu'est-ce que vous allez proposer exactement ?
Bah écoutez, c'était bon, c'est bien toujours de casser le concert classique. C'est une petite création tout à fait simple et tout à fait modeste qui serait un parcours, finalement, une promenade musicale à travers certaines des œuvres des Chants du Monde, d'ailleurs, parce que c'est le nom de toute cette collection. Et donc, Chants du Monde, ben voilà, nous, on amène les chants qui, espérons, iront. Alors, c'est vrai que cette tapisserie était beaucoup positionné sur l'idée de l'Apocalypse, c'est sûr. Mais vous avez chaque fois un thème différent qui, lorsqu'on regarde le thème précisément aussi de ce festival qui est lié sur la prophétie, etc., nous ramène, c'est un peu comme ces illustrations de ce qu'on a voulu démontrer, cette année. Donc en fait, on a un certain nombre de thématiques qu'on va retrouver aussi dans les poésies qui seront chantées par, effectivement, Regard Persan, qui est un ensemble de musique iranienne avec aussi une chanteuse, et d'autres chanteuses aussi que Ramzi a sélectionné. Et on va essayer d'apporter un chant, une parole sacrée à ces magnifiques tapisseries qui sont, on ne peut plus d'actualité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est l'idée plutôt d'une promenade avec des voix de femmes, essentiellement, qui vont dire des très beaux textes chantés, avec ce regard sur chacune de ces tapisseries qui nous renvoie à un imaginaire incroyable et qui, d'une certaine manière, certes, anticipe un avenir qui n'est pas très réjouissant si on regarde ça dans le sens apocalyptique du terme, mais qui, quelque part, sont extrêmement contemporains, finalement, dans cette période de vie dans laquelle on est aujourd'hui.
Messieurs, l'heure tourne. Malheureusement, on arrive à la fin. C'est vrai que j'aurais bien parlé encore un peu de cette proposition de cornemuse, avec Éric Mombel qui va proposer un hommage à Bob Dylan. Il y a évidemment beaucoup de musique indienne, des initiations aux danses égyptiennes et marocaines. Enfin, c'est incroyable. La programmation est tellement riche qu'on aura envie de passer un quart d'heure sur chacune des propositions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans les studios de Radio Campus. Peut-être si jamais vous aviez chacun d'entre vous une proposition, une recommandation à faire à nos auditeurs auditrices.
Bah moi, c'est simplement de venir déjà, oui. Mais de venir simplement. C'est-à-dire qu'il faut venir comme on parlait de cette création, en termes de promenade, c'est ça, c'est une promenade en différents lieux. On n'est pas dans un concert figé, on est là pour se promener, entendre différents sons, différentes voix et différents environnements. Voilà, c'est tout.
Moi, je dis au public, venez nombreux, écoutez ces sonorités, voyagez. travers le son, mais travers aussi travers les goûts, parce qu'il y aura un marché oriental avec des gâteaux, avec la nourriture orientale, et en plus d'autres produits artisanaux qui seront faits, artisanal. Voilà. Donc venez découvrir tout ce monde à travers ces deux, ces cinq jours.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Ramzi Abouredouane, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup également à vous, Alain Weber, d'avoir été présent dans nos locaux. Toutes les informations sont à retrouver, évidemment, sur le site internet Le Festival des Orientales. Et on se donne rendez-vous dès demain, le 30 juin, à Ingrande, pour le début du festival. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Océane pour sa chronique. Merci à Ramzi Abouredouane et Alain Weber d'être venus dans nos locaux. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo. Pas du tout. On se retrouve dès lundi à bord du pédalo. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.